avant cette dernière ligne droite de ce matin, donc pour débuter deux tables rondes en parallèle qui en fait nous permettent de prendre un peu de la distance par rapport aux professeurs documentalistes de l'éducation nationale en France, avec une autre table ronde qui concerne les comparaisons internationales sur les bibliothèques scolaires et la place pédagogique ou éducative du professeur documentaliste bibliothécaire scolaire à l'étranger. Et nous, on est rassemblés ici pour également une ouverture vers d'autres points de vue ou d'autres situations. D'une part, au sujet du point de vue ou du sentiment ou de la perception, et c'est le terme qui a été choisi pour la première communication, la perception des chefs d'établissement de notre rôle, de l'évolution de notre profession. Donc avec à ma droite, tout au fond, Fabien Mancella, qui vous voyez à son nom ici, qui va venir me remplacer après pour présenter en fait les résultats d'une enquête autour de cette perception des chefs d'établissement. Donc Fabien Mancella, qui est enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, dans le laboratoire technique. Elle présentera plus en détail autour des technologies numériques pour l'éducation. Ensuite, on se rapprochera davantage de professionnels qui nous sont très associés, c'est les collègues professeurs documentalistes dans l'enseignement privé. Et avec changement sur le programme que vous avez, ce n'est pas Emmanuel Mussina qui va présenter ce sujet, mais deux collègues qui sont à ma gauche, Emmanuel Mogard, qui est nouvellement élu président de l'ANDEP, donc l'Association nationale des professeurs documentalistes de l'enseignement privé, et à côté de moi, Mathilde Schmitt, qui est présidente de l'ARDEP. Donc on a aussi un fonctionnement national avec des antennes régionales, donc sur l'ARDEP Île-de-France. Et Emmanuel Mogard est professeur documentaliste dans l'Académie Pays de la Loire pour sa part. Donc là, on va avoir la possibilité aussi d'aborder deux aspects, un qu'on a beaucoup abordé depuis le début du congrès, savoir l'aspect pédagogique, voir quelles peuvent être les différences entre l'enseignement public et l'enseignement privé, quelle peut être la perception de notre rôle pédagogique par les chefs d'établissement, mais aussi les questions statutaires, à la fois aussi du point de vue des chefs d'établissement, du point de vue des rapports qu'on peut entretenir avec les collègues de l'enseignement privé qui dépendent des mêmes textes que nous. Et ensuite, on va avoir une autre ouverture, donc avec Isabelle Couturier qui est juste à ma droite, donc qui est professeure documentaliste dans l'enseignement agricole public et qui va nous présenter la situation qui est un peu différente parce que là, pour le coup, on ne dépend pas des mêmes textes, en particulier au niveau des statuts. Ce sera l'occasion, et on a toujours pris le temps justement d'avoir ces échanges-là avec l'enseignement agricole, pour voir qu'il y a quand même un modèle très intéressant dans l'enseignement agricole, qu'on a eu du mal à discuter dans l'éducation nationale. Ça sera peut-être sujet à discussion. Isabelle Couturier, qui est professeure documentaliste dans l'Académie de Nantes, et qui est également membre du groupe d'animation et professionnalisation en documentation pour l'enseignement agricole. Voilà, ça va nous permettre aussi, parce qu'il y a eu quelques petites discussions hier, mais sans que ce soit le sujet autour du statut en particulier, donc peut-être que ce sera là aussi l'occasion d'échange. Donc le principe sur cette table ronde, c'est qu'il y ait les trois présentations qui durent 15 minutes, et qu'ensuite on ait un temps d'échange essentiellement avec la salle pour justement faire le point sur ces sujets. Donc je laisse la parole à Fabienne Lancella pour la perception des chefs d'établissement.
Alors moi je suis enseignante-chercheure de l'Université de Poitiers qui intervient dans le laboratoire Techné, avec du travail autour des usages, des environnements des élèves et des enseignants du numérique. Bon, des travaux à l'heure actuelle portent beaucoup sur l'utilisation des tablettes et dernièrement j'ai collaboré à l'examen et au déploiement du dispositif de réseau social numérique via EDUC et j'étais particulièrement aussi concentrée sur l'intérêt que pouvaient avoir les professeurs documentalistes dans le cadre de notre académie. Donc, mon action se situe bien au niveau du laboratoire, mais aussi je reviendrai sur des missions que je remplis au titre de l'enseignement et qui se destinent en partie à des chefs d'établissement. Et c'est dans le cadre de ces missions, sur des missions d'évaluation d'un dispositif de formation qui concerne des cadres de l'éducation nationale, que j'interviens. Donc, je propose de commencer. Alors, quel regard portent les chefs d'établissement à l'ère du numérique sur la mission de professeur documentaliste? Alors, reprenons un peu les missions et les activités des chefs d'établissement que vous côtoyez au quotidien. Quand on regarde la littérature qui concerne leur activité, on reprend, alors cette littérature est un peu développée, mais pas de manière si importante que cela. On va retrouver des activités de régulation des activités au sein de l'EPALE. Donc l'EPALE est un établissement public local d'enseignement et le local a toute son importance. Donc le chef d'établissement situe son activité dans une perspective de hiérarchie verticale et aussi horizontale en partenariat avec les différents acteurs des collectivités territoriales. Il a un rôle de régulation d'activité, donc il va intervenir aussi bien au niveau de l'élaboration des emplois du temps, aussi bien dans l'animation des différentes équipes qu'il va devoir animer de tailles différentes, des relations avec des partenaires plus ou moins sensibles à la fonction publique et aux modes qui nous sont souvent habituels. Et donc, si souvent on entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que le chef d'établissement est le premier pédagogue de l'établissement, c'est à travers les constitutions des groupes, à travers les choix des budgets, à travers les animations, qu'il va mettre en œuvre et qui vont avoir une incidence sur ces activités pédagogiques de l'établissement. Il y a 2 ans encore, les établissements pouvaient avoir des tailles qui évoluaient dans une échelle de 1 à 80. Les établissements de 60 élèves à 4000 élèves. Donc avec des modalités de gestion qui vont être complètement différentes d'un établissement avec quelques enseignants qui ne seront pour la majorité pas à temps complet et des grosses structures avec plus de 200 enseignants. Au titre de la synthèse, je vais proposer simplement de retenir ce que propose le recteur Bouvier sur le rôle de traducteur et de traduction des cultures professionnelles et managériales que propose le chef d'établissement au sein de son établissement. Alors, quels sont les chefs d'établissement vers qui je me suis retournée? Enfin, nous nous sommes retournés, pardon. Ces chefs d'établissement font partie de cadres de l'éducation nationale qui ont pu suivre une formation professionnalisante de niveau Master 2 de management des organisations scolaires. Ces cadres, cette initiative est portée par le ministère de l'Éducation nationale. Cette formation se déroule en 2 ans. Elle permet l'obtention d'un Master 2. Elle a des différents modules de type politique éducative, droit de l'éducation scolaire, gestion des ressources humaines, et puis 3 ou 4 modules qui concernent plus spécifiquement le terme management, management stratégique, management de projet et conduite du changement. Et un des modules sera aussi manager le numérique. Depuis peu, j'interviens dans ce module où sont abordées 3 thématiques qui concernent la culture numérique dans le secteur éducatif, le portage des politiques éducatives du numérique et puis un 3e module qui concerne l'Internet raisonné. Cette formation de spécifique, sous un format hybride, mais la grande majorité de cette action se déroule presque exclusivement à distance. Donc pendant 2 ans, les personnels qui suivent cette formation, donc financés soit par leurs académies, soit sur leurs fonds propres, vont être soumis à l'utilisation intensive de plateformes de formation asynchrone de type Moodle et ou d'environnement synchrone, d'environnement de type Centra que vous connaissez peut-être, qui est mis à disposition de tous les personnels de l'éducation nationale et ou d'autres environnements que l'on invite à utiliser. Donc, ils vont être incités ou ils vont avoir des obligations d'utiliser des outils que j'ai pu entendre l'autre jour qui étaient de type de carte conceptuelle heuristique. Et donc, à l'issue de la formation et de la validation de leur master, ils bénéficient d'un C2I métier, alors qui est le pendant du C2I métier de l'enseignement, qui est somme toute récent et qui est fonction d'organisation et de communication. Donc, qui valide tout un ensemble de compétences autour de la maîtrise du numérique. Donc, c'était pour vous présenter un peu les spécificités des chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer. Le recueil de données s'est fait sur des analyses d'entretiens semi-directifs. Nous situons dans une démarche exploratoire et donc nous avons suivi ce modèle-là de manière à laisser libre la parole et la parole spontanée des chefs d'établissement pour percevoir la spontanéité qu'ils pouvaient avoir autour du métier. Quand je les ai rencontrés ou interrogés à distance, je ne leur ai pas dévoilé dès le début que mon intérêt se portait sur le métier des chefs d'établissement. Donc, c'était stratégique. Donc, au cours des entretiens, quand ils évoquaient les missions de professeur, je n'attirais pas leur attention sur la distinction avec les missions de professeur documentaliste. Et c'est en deuxième partie de l'entretien, quand, si par hasard le métier n'avait pas été évoqué, que j'abordais cette question avec eux. Les entretiens ont été aussi complétés par toute une série de questionnaires de données secondaires, puisque je m'occupe de l'évaluation de ce master et de données recueillies depuis plus de 5 ans avec deux questionnaires qui concernent des cohortes entre 15 et 25 répondants. Et puis de rencontres formelles et informelles avec des professeurs documentalistes et des chefs d'établissement formés et non formés. Alors, quel est l'impact? Alors, je vais d'abord aborder la question des chefs d'établissement, puis après j'aborderai spécifiquement leur regard. Donc là, c'est le dernier aspect sur les chefs d'établissement. Quel est l'impact de la formation? Tous s'accordent à dire que les 2 ans de formation leur permettent de prendre de la distance. C'est le leitmotiv, c'est le credo qu'ils emploient à tout moment, prise de distance par rapport à leur métier. Légitimité aussi, ils se sentent plus légitimes. Alors, ça ne se traduit pas exclusivement par des propos, mais quand on examine avec eux leur parcours de carrière, ils se trouvent de plus en plus enrôlés dans des activités spécifiques au sein de leur académie. Alors, pas exclusivement autour du numérique, mais ça peut être aussi pour aborder des questions juridiques. Souvent, ça a été le thème de leur mémoire qui leur a permis de rencontrer, dans le cadre, par exemple, des domaines juridiques, les acteurs, les responsables juridiques de la cellule de l'académie, et après s'ensuit une discussion, et à travers ces échanges, eh bien, ils sont repérés au sein des académies. Alors, différentes missions au niveau de CELUTIS, au niveau du CNESCO, hein, du Conseil national de l'enseignement, de l'évaluation du scolaire, pour lesquelles ils peuvent être mobilisés là récemment sur les questions de redoublement. Donc, des sollicitations et des repérages qui se font à différents niveaux ou de formation. Alors, je vous ai mis les propos tels qu'ils étaient formulés dans les échanges. Alors, à la question « Quel personnel a vu ses compétences les plus évoluées du fait du numérique ?» Eh bien, il ressort spontanément 3 catégories. Ils reconnaissent les catégories de l'administration. Alors, j'ai remis dans le même ensemble, même bloc, les secrétaires, les assistants, pardon, et eux reconnaissent avoir une évolution du numérique et de leur père, hein, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas suivi cette formation. Les professeurs, et un tiers, enfin, les 3 catégories apparaissent de manière similaire. Donc, les chefs d'établissement formés reconnaissent pour un tiers que les professeurs documentalistes ont vu leurs compétences beaucoup évoluer du fait de numérique. Alors, quelle est la nature des propos? Les propos qu'ils soutiennent tous sont éminemment positifs. Excepté, j'avais rencontré dans la mise en place du questionnaire un chef d'établissement qui n'avait pas suivi la formation et qui avait des propos plutôt neutres, mitigés. Alors, je tenais à l'évoquer, mais ce n'est pas suffisant pour généraliser. Mais tout le long du discours, tout le long de leur discours, avaient des attentes fortes d'impulsion, d'interface, de carrefour. Même si trois chefs d'établissement avaient des difficultés enfin, qu'ils soulignaient avec leurs professeurs documentalistes. Ils attendaient beaucoup de leur part. Ils situaient aussi leurs propos, puisque ces chefs d'établissement, quand on examinait leur contexte, avaient pour au minimum deux établissements en responsabilité, et certains six avaient eu six établissements en responsabilité, avec des carrières qui s'échelonnaient entre 6 ans et 27 ans pour le plus ancien en termes d'expérience au sein des établissements. Quand ils parlaient de cette profession, ils établissaient aussi des comparaisons par rapport à d'autres professeurs documentalistes qu'ils avaient pu rencontrer dans le cadre des missions qu'ils ont pu rencontrer. Donc, c'est ce qui ressort d'abord en premier lieu, des attentes fortes et des attentes positives par rapport à ces personnels. Bon, quand ils ont rencontré des difficultés, ils ont essayé aussi de mettre en place des solutions. Bon, certaines avaient quelques efficacités, d'autres un peu moins. Hein, injustifier des difficultés du fait de la fin de carrière d'un enseignant, d'un professeur documentaliste. Leur environnement était des établissements dans toute la France, hein, Paris, la Corse, le sud de la France, donc avec des tailles différentes, hein, un établissement de 2000 élèves et un autre de 400 élèves. Alors, comme les entretiens ont été relativement longs, en moyenne une heure, quelques-uns avaient duré une demi-heure, à peine une demi-heure, deux, mais la plupart étaient autour d'une heure et demie. Si initialement je ne voulais pas me focaliser sur le référentiel des compétences, il m'a semblé intéressant de reprendre ce référentiel et de signaler que la plupart des missions ou évocations ont été quand même relevées de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins développée. Nécessairement, quand on les invitait à éclairer sur les lieux, les instances, les activités qu'avaient les professeurs documentalistes, quand on abordait directement cette question-là, quand on n'avait pas, ils disaient en premier lieu le CDI. Hein, c'était la première évocation. La deuxième évocation de l'activité, et de manière très forte et de manière la plus fréquente, a été coopérer avec. Au sein d'une équipe. Donc la coopération avec les autres enseignants a été ce qui était souvent le plus développé. Parmi tous les éléments, tous les items des compétences, il y en a un seul qui ne m'a pas semblé évident, qui a été celui qui concerne ce, je n'ai pas sous les yeux, mais à destination des parents d'élèves, coopérer avec les parents d'élèves. Celui-ci, je n'ai pas pu le repérer. Un dernier que je voulais aussi évoquer, mais sur lequel je reviendrai un peu par la suite, c'est s'engager dans la démarche individuelle et collective de développement professionnel, qui va faire plus l'objet de la dernière, du dernier éclairage sur les missions qui sont attendues. Donc, tous les items sont plus ou moins abordés, évoqués et référencés. Hein. Retenez donc que c'est la présence au CDI et puis la coopération avec les équipes enseignantes qui est le plus évoquée et signalée. Alors, est-ce qu'il faisait des distinctions avec le professeur d'une discipline ? Dans les références, peu de distinctions n'est apparue. Un seul chef d'établissement a communément employé le terme doc. Le doc, la doc, le doc, la doc. Mais contrairement à toute attente, ce chef d'établissement a été celui qui a cité le plus de références du métier et notamment a pu évoquer les questions d'éducation aux médias. Les autres n'ont jamais évoqué cette question-là, ont pu en faire allusion, mais de manière spécifique. Les des vocations de distinction par rapport aux autres métiers de professeur concernaient la variable temporelle. Donc, trois ont mis en avant la présence sur l'établissement. Le propos qui est retenu là a été prolongé par le chef d'établissement. Et il a reconnu que lui, de manière similaire, le temps qu'il avait sur l'établissement lui permettait aussi d'apporter des services de veille aux usages pédagogiques innovants. Donc c'est cette variable-là que j'ai retenue qui me semblait le plus éclairée, ce qui à leurs yeux distinguait l'activité du professeur documentaliste. Alors, quelle vision pouvons-nous, enfin j'ai pu retenir à travers les propos qu'ils pouvaient émettre? Il n'exprimait pas de tension entre les missions de professeur et de documentaliste. Donc, ça corrobore la première partie. Ils avaient, alors, sur les questions d'identité, pas de repérage de difficultés d'identité. L'identité qu'ils pouvaient avoir repérée de leur professeur documentaliste était en lien avec les activités pérennes qu'ils pouvaient reconduire. Donc certains citaient une participation à des concours à travers des mangas reconnus au sein de leur académie. Un autre pouvait évoquer sa participation sur les liaisons école-collège. Un autre pouvait évoquer l'implication avec les professeurs de langue du fait de compétences linguistiques qu'il avait pu acquérir auparavant. Donc là, c'était l'identité qui était portée par le reconnue par le chef d'établissement. La seule évocation et attente qui a été souvent proposée a été une demande de proactivité. Proactivité à destination des élèves, rarement évoquée, mais proactivité à destination des enseignants et des équipes enseignantes. Deux auront évoqué une proactivité à destination du chef d'établissement et de l'équipe de direction. Et au-delà de la dimension de coopération, c'était peut-être ce qui apparaissait le plus au sein des attentes et de la perception que pouvait avoir le chef d'établissement. Et longuement, ils reviennent sur les missions de professeurs documentalistes. Tout le long de leur discours, ils vont employer ce vocabulaire, spécifier des évocations d'inscription à l'emploi du temps, des missions qui leur paraissent similaires à ceux qui sont proposés. Alors, les échanges ont été longs et riche. J'ai voulu en savoir un peu plus sur la question du numérique. Alors la question du numérique est polysémique et donc à travers les discours sont ressortis quatre grands thèmes. La question des matériels, équipement, environnement. Quand ils évoquaient les questions de Moodle, il y avait nécessairement de l'implicite entre nous puisque je connais les usages qu'ils avaient pu avoir de Moodle. Sur les questions des ENC, de manière similaire, nous abordons ces questions-là dans les formations que nous abordons avec eux. Mais toutes les évocations du numérique qu'ils ont pu faire ont été faites justement par rapport à, je dirais, à des actes administratifs. Alors, comme le signale une des chefs d'établissement, c'est des indicateurs multiples. À titre d'exemple, un des chefs d'établissement dit ben voilà, nous avons des tableaux blancs interactifs, mais je constate que personne ne me demande le stylet qui permet de fonctionner avec le tableau interactif. Donc, ils ont des critiques, des regards très nuancés sur les pratiques du numérique dans leur établissement. Ils peuvent rétorquer à des demandes de tablettes les justifications des usages que comptent en faire les différents acteurs. Donc, ils ont un regard très contrasté sur la mise en œuvre du numérique, mais une connaissance avérée. Donc, des questions sur les usages qui les ont souvent interpellés. À travers les matériels, usages, Nous sommes arrivés très rapidement à l'évocation des différents référents du numérique. Alors, cotiste, ça peut avoir d'autres appellations suivant les académies. Et les questions de formation. Alors, de formation qui sont proposées au sein de l'établissement. Parmi les chefs d'établissement, ils ont pu porter un diagnostic au sein de leur établissement et trois d'entre eux se sont fait les porteurs et les demandes que leurs professeurs documentalistes interviennent de manière avérée sur la question du numérique et les invitant à reprendre des rôles de référents du numérique. Alors, quelquefois, ces places étaient déjà occupées par des personnels qui en avaient toute la légitimité du fait de l'histoire de l'établissement. Les amenant à avoir un rôle bien spécifique de veille, quelquefois, mais aussi d'accompagnement sur les questions du numérique. Sur des questions de formation, tous ont reconnu vouloir mettre en place des formations en interne. Certains étaient même critiques sur la portée des formations académiques, du fait de la difficulté, du peu de réactivité et du temps important à mettre en œuvre. Et ils espéraient, ou ils travaillaient avec trois d'entre eux de manière importante, les avaient missionnés sur des activités de formation à l'interne de l'établissement. Il faut savoir que ces chefs d'établissement aussi eux-mêmes assuraient des actions de formation en partenariat ou en collaboration avec leurs référents et ou ses professeurs documentalistes. Alors, pour conclure, ces chefs d'établissement, alors je rajouterai à l'ère du numérique avec une formation avérée dans le numérique, ont un diagnostic qui leur permet de repérer les compétences, les savoir-faire au sein de l'établissement et au niveau des différents acteurs. Donc, ils ont pu les repérer et avoir des attentes vis-à-vis des professeurs documentalistes. Donc, ils attendent, dans leurs propos, de la proactivité par rapport à ce métier. Proactivité vis-à-vis des enseignants, des élèves, mais aussi, certains ont souligné une proactivité vis-à-vis de l'équipe de direction. L'une d'entre elles a particulièrement développé cet item. À travers l'opacité quelquefois, parce que ces chefs d'établissement restent derrière la porte de la classe, il ressort peut-être qu'il faut savoir peut-être rendre visibles les savoirs professionnels. Donc je rebondis sur ce qu'avait pu évoquer Elisabeth Schneider sur cette question. Et les orientations de l'EPLE, avec les nouvelles orientations de réforme des collectivités territoriales qui vont accorder peut-être un petit peu plus d'autonomie, vont peut-être permettre de développer un environnement d'organisation apprenante et reprendre ce que disait Bernou. Il est juste de faire l'établissement un levier de professionnalisation et dans l'implication de nos chefs d'établissement, ils peuvent voir que la place de professeur documentaliste de ces personnels formés a une place importante à leurs yeux. Voilà, je pense.
Bonjour. Donc, il s'agissait de voir s'il y avait une spécificité en fait de l'enseignant documentaliste dans l'enseignement privé à travers son statut et ses missions. Du coup, on verra si nos perceptions, je trouvais que par rapport à l'intervention précédente, on va voir si nos perceptions se situent, pour reprendre les mots, au cœur de la communication, au niveau du rayonnement ou du centre névralgique. On verra ça. À la base, a priori, pas de différence, même texte statutaire, donc en faisant très vite, circulaire de 79, décret de 80, l'arrêté sur le référentiel des compétences qui avait ouvert quand même des portes intéressantes en termes de reconnaissance, même si ce référentiel a été un peu mis à mal ensuite avec les consignes en termes de validation données, en termes de validation des professeurs stagiaires. Et enfin, le décret relatif aux ORS de 2014. C'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'en fait, ce décret a été transposé un an après, en 2015, en ce qui concerne les enseignants documentalistes du privé, relatif donc aux ORS. puisque logiquement, il n'y aurait pas eu besoin de cette transposition dans la mesure où un texte s'applique à l'enseignement privé en vertu du code de l'éducation. Donc voilà, de se dire, tiens, il y a eu un décret supplémentaire, est-ce que c'est une spécificité? Même concours, si ce n'est une dénomination différente, le CAFEP pour le CAPES, le KER pour le CAPES interne, et enfin, même déroulement de carrière et mêmes inspections. Du coup, dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler d'une spécificité de l'enseignant documentaliste? À la base, la volonté lors de la création du CAPES, c'était deux avantages. Des qualifications scientifiques reconnues et également des qualifications pédagogiques. Ça présentait un avantage supplémentaire qui était une perspective d'unification des personnels de ce domaine. Est-ce que c'est vraiment le cas dans le privé? Pour resituer rapidement, dans l'enseignement privé, on compte environ 2000 professeurs documentalistes. On parle bien là des professeurs certifiés et des contractuels de l'État. Il faut savoir qu'il existe également une catégorie de personnel supplémentaire, dit des personnels OGEC, l'OGEC étant en fait l'organisme de gestion de nos établissements, à hauteur quand même de 11% du personnel. Là, on pourrait se dire qu'il y a peut-être une première particularité.
Alors, avant de prendre la parole, je tenais juste à vous préciser qu'il n'y avait pas, contrairement aux apparences, d'uniforme dans l'enseignement privé. Petite parenthèse. En 2012, l'ANDEP, donc l'Association nationale des documentalistes de l'enseignement privé, a mené une enquête et nous avons tenté d'évaluer la variété des personnels qui exerçaient dans le centre de documentation. A noter que l'ANDEP compte 720 adhérents à peu près sur les 2000 professeurs documentalistes de l'enseignement privé. Cette enquête fournissait à peu près 60% de réponses des adhérents, donc ces chiffres sont plutôt significatifs. Alors, le terme de personnel a été choisi à dessein, puisque on n'a pas parlé de professeur documentaliste, puisqu'il faut évaluer la variété des personnels présents dans les centres de documentation, on va voir qu'ils sont divers. Trois axes ont été privilégiés, le nombre des professeurs documentalistes par établissement, le lieu d'affectation et le volume horaire par poste. Alors, il est ressorti de cette enquête un professeur documentaliste pour 700 élèves. 51% des professeurs documentalistes qui travaillent seuls, et pour le reste, là où exerce une deuxième, voire même une troisième personne, ce personnel est composé de professeurs de discipline, en reconversion ou quoi, et de personnel externe à la documentation, des bénévoles, des parents d'élèves, etc. Avec des situations locales qui sont à noter assez préoccupantes, dans certaines régions, dans le cas des gestions conjointes, on trouve de 30 à 40% de personnels qui sont externes à la documentation. Donc, au final, dans nos pourcentages, près d'un quart des personnels qui sont affectés dans les CDI n'exercent pas de fonction de documentation. Plutôt un constat alarmant. En ce qui concerne le lieu d'affectation, plus d'un tiers des professeurs documentalistes exercent sur deux établissements. Avec à noter un particularisme, celui de la région Midi-Pyrénées, puisque en fait la règle, ce sont que les postes soient fractionnés, donc il n'y a pratiquement pas de postes à temps complet. Et la situation s'aggrave depuis quand on a commencé à mettre en place les heures berceaux. Concernant le volume horaire par poste, 72% des documentalistes qui ont répondu à l'enquête sont à temps complet. Pour le tiers qui reste, ce sont des temps partiels imposés et pour certains, 10% d'entre eux, ils sont en risque de perte d'heures ou de contrat. Certaines académies qui ont intégré les heures de documentation dans la DAG ont aggravé le problème. Alors, quelles solutions sont proposées quand on est en cas de perte d'heures et de contrat? Des heures d'émutation, bien sûr. À noter que nous n'avons pas de corps de TZR dans l'enseignement privé, ce qui fait que les mutations peuvent effectivement s'effectuer dans d'autres académies et parfois fort éloignées de l'académie d'origine, ce qui pose un problème et qui précarise encore un peu plus les documentalistes de l'enseignement privé.
Du coup, si on analyse en fait d'un peu plus près cette enquête, on voit bien qu'elle montre une certaine précarité. Concernant les effectifs, ben là on voit bien qu'on est très loin, mais ça je crois qu'on n'est peut-être pas les seuls dans l'enseignement privé, par rapport aux normes proposées par l'inspecteur général Kensez en 82, qui parlait d'un poste pour 400 élèves. On voit que la répartition en fait, des postes elle n'est ni homogène ni équilibrée. Et en fait, ça échappe, le nombre d'heures imparties échappe complètement à toute logique. Aucun barème ne semble effectivement appliqué. Du coup, on peut se poser la question du processus de didactisation dans de telles conditions. Les documentalistes, on le voit assez, documentalistes assez précarisés, calcul des heures, en fait, ne suit pas forcément la logique ou d'un mi-temps ou d'un plein temps. Quand on a 22 heures, c'est vrai que c'est assez difficile dans ces cas-là de trouver des compléments de service. Et enfin, la présence de personnel non qualifié. On voit bien que certains chefs d'établissement utilisent en fait les heures de documentation pour compléter l'emploi du temps de professeurs de discipline en perte d'heures. Rappelons du coup à ce titre l'autonomie des chefs d'établissement dans l'enseignement privé qui ne relève en fait hiérarchiquement parlant ni du rectorat, ni du secrétariat général de l'enseignement catholique qui ne donne que les grandes tendances en fait. La seule autorité hiérarchique étant l'organisme de gestion, l'OGEC, et encore une autorité tout à fait relative. Donc on voit bien qu'il existe des personnels externes à la documentation dans les CDI, qui intervient en général pendant l'absence du professeur documentaliste. En même temps, ça montre bien des besoins réels en documentation dans les établissements scolaires. Donc on a cette espèce de paradoxe, d'une part des temps partiels imposés, des pertes d'heures, des affectations sur plusieurs établissements, et en même temps des recrutements de personnel externe à la documentation. Du coup, on peut faire deux constats. Mais un manque d'équilibre, d'harmonisation qui est en fait déplorable pour la formation à la maîtrise de l'information. Et en même temps qui est quand même un peu révélateur d'une conception du CDI qui est réduit peut-être à sa plus simple expression de lieu de vie et non à sa représentation en fait première qui est celui d'un espace didactisé. Et ça nous renvoie peut-être au terme employé tout à l'heure par les chefs d'établissement, on l'entendait, je redis les mots, donc au cœur de la communication, rayonnement, centre névralgique. Du coup, on a souhaité en fait prolonger cette enquête par une nouvelle petite enquête plus courte qu'on a envoyée cet été sur les textes dits ORS. Alors certes, on a reçu un peu moins de réponses parce que le temps était un peu court, néanmoins on a 20% des adhérents qui ont répondu, donc ça commence quand même à donner des tendances. Et en fait, il ressort une évolution très nette dans la perception de nos missions. Et notamment dans le rapport que les professeurs documentalistes du privé entretiennent avec les chefs d'établissement et notamment sur cette notion-là. 83% des professeurs documentalistes n'ont pas évoqué avec leur chef d'établissement la question du décret et même pensent que cela va poser problème. Et le chiffre qui est assez effrayant, c'est que dans les 17% qui ont abordé la question avec leur chef d'établissement, eh bien 65% des chefs d'établissement se sont déclarés défavorables aux récupérations d'heures dans le cadre des ORS. Néanmoins, cette réponse en fait, des chefs d'établissement, ça ne doit pas nous faire éviter de poser la question. Donc je redis, 83% n'ont pas posé la question à leur chef d'établissement. Au risque de se mettre en fait dans la position de Montaigne qui est celle de la servitude volontaire. Ce n'est pas à nous de compenser les manques du système éducatif. Et rappelons aussi une chose importante, c'est que les heures d'ouverture du CDI ne relèvent pas d'une décision du professeur documentaliste. Je crois que cette notion de « mon CDI » est quelque chose qui peut être dangereuse et puis nous nuire. Et en plus, lorsque l'on connaît en fait l'autonomie des chefs d'établissement dans le privé et les directives parfois contradictoires d'une région à l'autre des IPR et l'absence de consignes d'application au niveau national, puisqu'il n'y a toujours pas de retour sur la demande qui a été faite, je crois, conjointement par la FADBEN et l'ANDEP auprès de l'IGN sur cette question, on peut facilement en fait imaginer le nombre de conflits potentiels à venir. Par contre, du coup, là, on voyait côté chef d'établissement l'opinion des professeurs documentalistes sur cette question. Elle a pas mal évolué. Un quart des professeurs documentalistes sont favorables à une annualisation. Ça a été très flou au départ, cette notion-là. Annualisation, on entendait les congés d'été. Il s'agit bien d'un lissage sur l'année scolaire éventuellement. Et surtout, 82% des professeurs documentalistes disent favorables, en fait, à l'ouverture du CDI, par du personnel formé. Ça, c'était absolument inenvisageable il y a même 10 ans. Après, par contre, donc je disais, ça renvoie à la question de peut-être de mon CDI qui est évacué, mais ça pose une question importante qui est celle de ce personnel formé. Il est important dans ces cas-là de dire par qui, pour quelle mission et dans quelles conditions. Du coup, ces deux éléments-là, en fait, donc l'idée d'annualisation, d'ouverture par du personnel formé, c'est toutefois assez paradoxal avec le fait que quand on demande aux professeurs documentalistes de l'enseignement privé « Est-ce que vous pensez que ce texte va améliorer votre reconnaissance en tant qu'enseignant au sein d'établissement ?» Eh bien, en fait, près de la moitié ne savent pas, ne se prononcent pas, et en fait, un tiers pense que ça va dégrader leur image en tant qu'enseignant. On peut s'interroger sur cette perception. En conclusion, on voit bien apparaître, en fait, au niveau des questionnements et des préoccupations qui sont communes, je crois, aux professeurs documentalistes de l'éducation nationale et à ceux de l'enseignement privé, même si on voit effectivement, du coup, des conditions d'exercice qui sont propres à l'enseignement privé.
Alors, dans un deuxième temps, nous avons pu travailler sur nos missions. Donc, nous, je vous rappelle, même si c'est sans doute assez inutile, que nos missions sont définies par quelques textes. La circulaire de mission de 86, qui commence à largement dater, malgré la forte attente que nous avions d'en avoir une autre. La dimension par le référentiel de compétences de 2013, qui rappelle, enfin, qui nomme notre dimension pédagogique. Le référentiel qui pouvait laisser entendre à la fois la reconnaissance de la culture informationnelle comme objet d'enseignement, avec des savoirs et des notions, et une légitimité pédagogique, avec comme objectif la mise en place d'une progression dans la formation et la maîtrise de l'information. La mise en place du nouveau socle et la refonte des programmes ont pour la première fois clairement posé la question de la didactisation face à l'ENI. L'objectif est bien de nous faire passer d'une pédagogie curative a posteriori, basée sur les pratiques des jeunes et sur des compétences procédurales, à une véritable éducation aux médias et à l'information. Mais qu'en est-il vraiment dans l'enseignement privé? L'enquête réalisée en 2015, cet été, nous a apporté quelques éléments de réponse.
Ah, du coup, la reconnaissance, la première reconnaissance en fait, des documentalistes va consister dans déjà la présence dans les instances. Très peu de documentalistes siègent dans les instances du type conseil pédagogique, seulement un quart. Bon, il faut rappeler, on parle toujours des spécificités, est-ce que c'est une non-reconnaissance de notre fonction ou alors est-ce que ces structures n'existent pas dans l'enseignement privé? Il faut rappeler qu'en fait ces instances, bien que faisant l'objet de textes réglementaires, n'existent pas toujours dans l'enseignement privé. Il y a un chiffre que je voudrais quand même donner, même si on va essayer d'abréger un petit peu. 63%, enfin les deux tiers des CDI, des enseignants documentalistes, n'ont pas mis en place de projet de politique documentaire au sein de l'établissement. Voilà, je pense que ça rassurera ou pas. C'était, voilà, petit clin d'œil à Pascal. C'est peut-être quand même la preuve que le discours injonctif en la matière de l'institution n'est pas forcément... Préminent. Je ne suis pas sûre que M. Durper, par contre, s'en réjouisse beaucoup. Par contre, une grande partie, ce qui est plus intéressant, c'est qu'une très grande partie fait un bilan d'activité. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il est communiqué au sein de l'établissement. Donc, en ce qui concerne, on va passer, on avait effectivement quelques données sur les taux d'équipement, parce que du coup, les taux d'équipement, au final, moyens matériels, ça rime aussi quand même avec espace didactisé, et juste dans l'ensemble de dire que l'équipement est quand même à peine satisfaisant, puisque dans une grande majorité de cas, il est difficile d'accueillir quasiment un groupe classe, pas d'espace de travail pour les groupes, donc en ce qui concerne la notion dans le référentiel, d'amener les élèves à l'autonomie dans des espaces didactisés, ben forcément ça va être un petit peu compliqué quand il n'y a pas ces moyens-là. On va revenir sur la partie peut-être plus pédagogique du coup, qui est la progression justement dans l'éducation média à l'information.
Alors, on a constaté suite à l'enquête toujours que un peu plus de la moitié des professeurs documentalistes mettent en place une progression, que l'autre partie ne l'avait pas mise en place et qu'elle intervenait ponctuellement selon les besoins ou avec les enseignants de discipline, ce qui nous renvoie à nos termes, les termes que l'on trouve dans les projets de programme, avec contribue, participe, sollicite, aide précieuse, voilà, qui revient assez souvent malheureusement. Il est quand même important de rappeler que la collaboration engagée avec les professeurs de discipline, bien qu'étant fondamentale, et nous le savons, dans la progression des élèves, ne participe pas à la réussite de ceux-ci forcément. Elle va véhiculer une conception à la fois vassale des apprentissages infodocumentaires et les enfermer dans une formation aléatoire, soumise malheureusement à la dynamique de projet.
Du coup, on avait prévu une petite sur les niveaux et les disciplines, c'est peut-être pas le plus parlant. On va plutôt parler en termes de contenu, parce que c'est intéressant par rapport à notre formation, ce qui nous amènera à notre conclusion. En fait, on a pris appui sur les travaux du Tramdoc de Toulouse, et en fait, je vais les présenter de manière décroissante. Ce qui est le plus abordé par les enseignants documentalistes, ça va être tout ce qui est décodage et construction en fait, des systèmes, des écosystèmes informationnels. Donc la pertinence, tout ça, ça ne pose pas de problème pour la moitié des documentalistes. La notion d'être auteur, consulté, publié, même chose. Argumenter, développer un point de vue, tout ça c'est assez abordé. Partager des informations responsables. Puis d'un seul coup, ça commence à chuter sur assumer une présence numérique. Et ça chute encore plus sur comprendre et expérimenter le web et sa structuration, l'architecture d'information, notion d'hyperlien, de cloud, etc. Où là, on tombe simplement à un professeur documentaliste sur 5. Du coup, c'est peut-être significatif en fait, de nos connaissances et de nos compétences dans le domaine des SIC. Et je crois qu'hier matin, ça renvoie à l'intervention justement de Pascal hier matin, ça pose la question de la formation initiale et continue des professeurs documentalistes qui doivent pouvoir s'appuyer sur le champ des SIC et donc nous conforter en fait dans cette posture d'enseignant en prenant appui sur tous ceux qui construisent aujourd'hui l'information documentation. On rajoute bien ce dernier terme avec l'intervention d'Olivier Ledeuf hier, prendre appui donc du coup sur les chercheurs, les professionnels et les institutions. Pour conclure, on voit bien qu'il existe en fait quand même des variables. Aujourd'hui, le grand risque, on le sent à travers ces chiffres, c'est un fossé de plus en plus large qui pourrait se creuser entre les professeurs documentalistes, entre ceux qui ne voudront pas appliquer le texte, et entre ceux qui, encore plus grave peut-être, dénient le fait d'être professeurs et nous installent dans cette fameuse posture précieuse d'aide et d'accompagnement des élèves, et puis ceux qui revendiquent une véritable discipline en information, documentation. La troisième voie serait-elle possible? Ce serait celle de la logique curriculaire, qui est notamment proposée par la FADBEN. On pouvait espérer en cela beaucoup des programmes tels qu'ils pouvaient être initialement proposés. En conclusion, est-ce qu'il y a une spécificité du professeur documentaliste? Sûrement pas en ce qui concerne les textes et les nombreux questionnements qui agitent la profession. On le voit bien. Par contre, en termes statutaires et de moyens, oui, là, clairement. Et pourtant, ce sont des préalables indispensables à la mise en place d'une réelle didactisation de l'information documentation. Néanmoins, je crois que si les enjeux, les débats sont communs à tous les professeurs documentalistes, la spécificité dans l'enseignement privé réside peut-être paradoxalement, en fait, dans cette relative liberté qui est donnée par ces structures multiples, en fait, et diverses. Et du coup, dans le cadre de cette souplesse d'exécution, avec cette volonté, on voit bien un réel des professeurs documentalistes, avoir du personnel formé permettrait d'avoir un champ d'investigation plus important. Merci.
D'abord, merci à la soit examinateur de la FAPEN de m'avoir invité pour évoquer l'enseignement agricole. Alors, ma tâche là va être relativement agréable suite au discours de mes collègues, puisque le tableau que je vais vous présenter peut paraître idyllique, mais je serai amenée à nuancer le propos. Un tout petit mot du titre de la présentation, qui voulait le plus explicite possible, et pour marquer justement la spécificité des professeurs documentalistes de l'enseignement agricole, et avec l'articulation forte entre la discipline d'enseignement et la gestion du lieu documentaire, et qui finalement se trouve un peu pompeux. Voilà. Donc, au niveau de l'enseignement agricole, un tout petit point rapide, donc c'est la deuxième communauté éducative et elle est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et ça représente, on a coutume de dire, justement, au niveau du nombre d'élèves, d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires, parce qu'on est sur plusieurs niveaux de formation ça concerne aussi l'apprentissage et la formation adulte. Ça représente à peu près l'Académie de Limoges, justement. On parle souvent on dit que c'est une petite académie, tout compris. Et l'enseignement public agricole, qui, qui me concerne, en tout cas c'est ce que je connais, donc c'est de ça que je vais vous parler, est extrêmement minoritaire puisqu'il représente à peu près 28% des établissements. Voilà. Donc mon propos là concerne l'enseignement public. Je vais intervenir en trois temps. Je vais parler d'abord de l'inscription effective d'un enseignement de la documentation dans les référentiels, dans les programmes. Ensuite, je vais aborder justement la spécificité des centres de ressources qui sont très fortement professionnalisés. Et puis, j'aborderai la question des enjeux et des perspectives d'enseignement de l'information, de documentation, d'enseignement agricole. Sachant que je vais beaucoup axer mon propos sur le témoignage, c'est-à-dire sur ma pratique réelle. Donc, très rapidement, cette discipline elle est inscrite dans les référentiels depuis 1984, hein, avant même la création du CAPESA de 1989, comme l'a montré Cécile Gardiès notamment. Et l'évolution de la discipline, elle a connu en fait une progression d'une approche très procédurale, méthodologique. D'ailleurs, la discipline s'appelait les techniques documentaires. Et puis, elle a évolué vers quelque chose d'un peu transversal, de l'apprendre à apprendre, pour finalement arriver à l'inscription revendiquée, affirmée dans le champ des sciences de l'information et de la communication. À partir de 2007, à peu près, quand les programmes ont été totalement refondus dans l'enseignement agricole, aux deux niveaux où nous intervenons, c'est-à-dire le bac professionnel et le BTSA. Voilà. Et cet ancrage scientifique est dans la droite filiation des fondateurs des sciences d'information et de la communication, tel Jean Mérien. Alors, je vais aborder en fait, du coup, ma pratique personnelle, donc en vous donnant en concrètement en fait ma fiche de service actuelle. Donc, j'interviens moi cette année auprès de 6 classes, 3 classes de bac professionnel agricole et 3 classes de BTSA, ce qui me fait un horaire hebdomadaire d'à peu près, en comptant la pluridisciplinarité, les heures de pluridisciplinarité, de presque 10 heures hebdomadaires d'enseignement. Donc avec, alors, ma particularité, c'est qu'en fait, j'interviens toute seule, mais nous sommes deux professeurs documentalistes titulaires pour un peu plus de 400 élèves. Donc là, voilà, évidemment, ça fait rêver. Et ma collègue, pour des raisons médicales, en fait, n'enseigne plus, donc j'assume tout l'enseignement, mais il faut imaginez que dans un cas normal, ce serait divisé par deux, c'est-à-dire que j'aurais la moitié de l'enseignement que j'ai effectivement. Alors, le fonctionnement de l'enseignement agricole, vous savez peut-être, est sous forme modulaire. Donc, la documentation intervient dans les modules d'enseignement généraux. Elle est associée à la discipline du français, de l'ESC, qui est aussi une particularité de l'enseignement agricole, l'éducation socio-culturelle, qui est encore plus ancienne que la documentation en tant que discipline, puisqu'elle fête ses 50 ans cette année, et qui est liée aux missions particulières que l'enseignement agricole a, en dehors de la mission de formation. On a une mission d'insertion, d'animation des territoires, voire même de coopération internationale. Donc toutes ces missions, en fait, sont en large partie assumées par nos collègues de l'éducation socioculturelle. Et donc cette construction modulaire nous permet de travailler en pluridisciplinarité, pardon, et non pas je veux pointer là la question de la transversalité qui, à mon avis, peut être un écueil, c'est-à-dire qu'en fait il y a un risque de dilution en fait des notions, des concepts qu'on aborde en tant qu'enseignant disciplinaire. Quand on considère que justement l'objet de notre enseignement est transversal. La pluridisciplinarité, c'est la mise en sens, c'est-à-dire effectivement tout est lié, mais à un moment donné, on peut repérer des champs bien distincts. Alors, pour aller très concrètement, en fait, avec mes élèves, ce que je fais, c'est une progressivité dans l'approche des notions d'information et documentation. Elle s'articule autour de la notion fondamentale d'information telle que l'a définie Jean Méria en tant que contenu cognitif du processus de communication, en tant que connaissance communiquée ou communicable. Donc ça, c'est la notion fondamentale qu'on va travailler, et on le travaille à travers des objectifs qui sont donc abordés dans les référentiels. On travaille avec les élèves autour de la réalisation de recherches pour répondre à un besoin d'information. Au niveau pas professionnel, on va leur imposer un thème qu'on va essayer de lier à un thème qu'ils abordent dans les autres matières du module concerné. Je vais vous donner l'exemple. J'ai donc deux classes de bac pro agroéquipement. Je leur demande de travailler la notion du progrès technique en lien avec la question environnementale parce qu'ils ont au programme de français le progrès et ses avatars. Avec les CGEA, donc, conduite et gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, je vais travailler l'agriculture et la ville. Ça, c'est en lien avec l'histoire géographique et aussi dans le module en bac professionnel. Et sur, puisqu'ils doivent travailler l'aménagement du territoire et enseignant dans un lycée agricole tout proche du Mans, on a dans notre projet d'établissement la question de l'agriculture périurbaine. Donc ça va être pour donner le sens à tout le travail autour des notions en information documentation. Donc je leur demande d'aller jusqu'à la réalisation d'un produit documentaire, soit une affiche, soit une cytographie, soit une revue de presse. Et ça leur permet, c'est comme ça qu'on travaille les notions. Et au niveau BTSA, on va aller plus loin, c'est-à-dire que les notions sont les mêmes, mais là on va leur demander en plus de problématiser une question qui est nationale et imposée annuellement. Cette année précisément c'est le jeu, là c'est un thème culturel, socio-économique, et on leur demande de travailler aussi toute la démarche de médiation documentaire, de mettre un corpus documentaire en relation avec un lecteur et de s'adresser à un public cible particulier. Donc c'est comme ça qu'on va approfondir les notions en information documentation. J'essaie d'aller vite parce que je ne sais pas trop où on est dans le... Alors concernant l'évaluation, donc là c'est pareil, c'est une spécificité puisqu'on a en charge l'évaluation de tout travail progressif que réalisent nos élèves. Au niveau bac professionnel, donc tout est évalué en contrôle en cours de formation, en CCF. Donc on est un peu jugé parti puisque c'est nous qui faisons le sujet et qui évaluons nos propres élèves. Il y a une partie qui est toujours pratique, j'ai oublié de vous le dire, mais tout l'enseignement en fait, de l'information documentation est en travaux pratiques, travaux dirigés. Il n'y a aucun cours magistral, ce qui fait qu'au-delà de 24 élèves, nous avons un dédoublement des effectifs. Ce qui explique pourquoi j'ai 10 heures, puisqu'en fait, mes 6 classes, j'en ai 2 qui sont dédoublées en plus. Voilà, donc des conditions relativement confortables pour travailler. Et donc en fait on évalue une partie pratique, c'est-à-dire le produit final, le produit documentaire qu'ils vont réaliser, et puis aussi en fait toute la démarche, toute la stratégie de recherche mise en place, et ça c'est une partie pour 50% de la note, et 50% de la note c'est un écrit sur table d'une heure individuelle où je vais évaluer leur capacité à évaluer justement la qualité de l'information, et c'est-à-dire à voir, enfin évaluer réellement s'ils ont bien compris, bien intégré les notions que j'aurais apportées, distillées au fil des exercices qu'on fait sur des notions aussi fondamentales que l'information, le document, besoin d'information, etc. Et pour les BTS, c'est un petit peu différent. Là, on met trois enseignants à intervenir l'évaluation. Et moi, je vais m'occuper de la partie pratique, c'est-à-dire encore une fois la réalisation du produit documentaire et aussi l'évaluation de la qualité d'information, les stratégies de recherche. Et mes collègues ESC et en ESC en français vont évaluer après les élèves à l'oral dans une communication de 15 minutes individuelle à partir de tout leur travail de recherche problématisé. Donc j'en viens au deuxième aspect sur l'usage du CDI dans l'enseignement agricole. C'est certainement cette particularité d'une documentation très professionnelle liée avec les filières de formation qui explique aussi pourquoi cette discipline est si bien implantée aussi au niveau de l'enseignement. Parce qu'en fait, il y a une reconnaissance d'une expertise et une grande utilisation des ressources techniques professionnelles, qui sont d'ailleurs coûteuses et qui sont encore, à l'heure actuelle, pas tellement accessibles en ligne. C'est une habitude de travail aussi en réseau, avec une professionnalisation forte. Vous connaissez peut-être le réseau national de dépouillement partagé, justement au départ des revues professionnelles et techniques et maintenant des ressources de plus en plus numériques, donc RENADOC, qui fonctionne et qui nous permet de travailler tous ensemble sur le territoire national. Et puis aussi la création, suite à la refonte des programmes en 2009, du groupe d'animation et de professionnalisation documentation supporté par l'ENFA, l'École nationale de formation agronomique à Toulouse, et qui est sous l'égide en fait de chercheurs en sciences d'information et communication notamment bien sûr Cécile Gardiès. Hein, et c'est un groupe de pairs en fait où on revient finalement à une. On fait un retour, on fait un petit peu un effet inverse. On va retourner au savoir savant pour être en mesure après de didactiser et de transposer pédagogiquement. Voilà, donc c'est un travail qui est réalisé aussi avec le relais institutionnel de l'inspection. Nous avons une inspection quasi spécifique. Je salue d'ailleurs Madame Wozniak, qui est l'inspectrice qui est présente, et qui est partie prenante de ce groupe d'animation et de professionnalisation. Et l'idée est après de faire des formations régionales entre pairs pour encore se professionnaliser sur la discipline en tant que telle. Je passe rapidement sur les pédagogies de projet, en fait, avec une utilisation très forte du CDI, puisque c'est un usage ancien déjà dans l'enseignement agricole de travailler, donc à plusieurs disciplines, sur un projet à long terme. Rapidement, mon montant de présence CDI est assez réduit, puisque je ne suis présente que 14 heures d'éduction faite de mes heures de cours, mais à l'inverse, ma collègue est donc sur 30 heures complètes, puisqu'elle ne fait qu'elle ne dispense pas de cours. Et du coup, en fait, on arrive à peu près à avoir un temps d'ouverture à toutes les deux sur leurs heures de cours, de présence pour les cours. Par contre, il y a beaucoup d'internes, donc on n'est pas ouvert le soir, et on n'est ouvert qu'une heure sur deux le midi, ce qui peut poser des soucis. Au niveau de l'organisation du lieu, alors là, en plus, moi je suis dans un CDI qui est tout neuf, tout beau, avec donc 22 places assises dans l'espace ressources, plus une vingtaine de places pour lecture détente, avec un îlot de postes de consultation de 7 postes, plus une salle attenante de groupe de travail avec 7 postes aussi. On peut accueillir 12 élèves et une grande salle de classe entière, 30 places, avec 10 postes aussi d'informatique, qui est ma salle de cours. Voilà. Rapidement, en plus, c'est un lieu qui est très fréquenté, avec au minimum un cours qui est chaque jour réservé avec des profs d'économie, d'histoire, de technique, etc., qui viennent faire un cours en exploitant les ressources du CDI, en faisant de la recherche informatisée. Je passe rapidement pour les enjeux. Donc on est dans le même contexte institutionnel que vous, puisque on est la loi de refondation s'implique au ministère de l'Agriculture, et donc c'est une opportunité, effectivement, l'inscription de cette éducation média à l'information. Et particulièrement pour nous, ça pouvait être l'occasion d'articuler, vous voyez qu'on aime bien aussi les sigles, la documentation, l'éducation socioculturelle et quelque chose aussi qui est spécifique, les professeurs de technologie informatique multimédia. Et pour reprendre un peu l'approche conceptuelle de l'information de Meria, on serait là sur des champs bien définis avec l'information connaissance qui est le domaine de la documentation, l'information médiatique qui est traitée par nos collègues de SC et l'information en tant que donnée. Qui est celle des informaticiens. Mais se pose la question du curriculum, parce que vous l'avez vu, c'est quand même pas un enseignement avec une continuité, c'est au niveau bac PS et au niveau BTSA, mais nous avons aussi des bacs technologiques, des bacs du bac général, nous avons des S, il y a les classes entrantes, les secondes générales, etc., qui n'ont pas du tout accès à cette discipline. Donc il y a encore des efforts de cohérence à faire, et a priori ce qui ressort pour l'instant du Conseil supérieur des programmes ne va pas dans ce sens-là. Et dans le cadre institutionnel de la loi de refondation, il y a aussi le service public du numérique éducatif, et donc on revient au rôle du CDI. Quand je disais tout à l'heure que notre inspection est spécifique, mais presque, c'est qu'elle est à double casquette avec justement inspection DOC et team technologie informatique et multimédia. Et du coup se pose la question de la distinction entre les outils, l'approche de l'équipement, des usages, et de la culture informationnelle, c'est-à-dire l'approche conceptuelle, notionnelle des questions informationnelles. J'en viens donc aux perspectives au niveau du contexte réglementaire. Alors, contrairement à nos collègues du privé, la transposition, nous, du décret ORES ne s'est pas encore faite au niveau d'enseignement agricole. On est sur un décret un peu moins ancien que vous l'étiez, puisque nous, c'est un décret de 71, là, actuellement, qui est en vigueur. Et notre note de service à nous, elle date de 98 et pas de 86. Elle a été reprise pour partie pour les questions
d'enseignement, enfin d'obligation de service dans une circulaire de 2004. Mais donc on a un gros enjeu là, de reconnaissance statutaire d'un poids réglementaire plus important avec les décrets. Et la question de l'extériorisation va se poser de la même façon que pour vous. Ça avait été une avancée pour vous d'avoir les 6 heures inscrites. Pour nous, il ne faudrait vraiment pas que ce soit les 6 heures, mais bien le prorata qu'on calcule, c'est-à-dire le sixième du temps de présence, parce que ça induit forcément qu'il y a de l'enseignement. Voilà, donc si jamais c'est 6 heures d'extériorisation, ça ne serait pas forcément une bonne chose. Même chose aussi, il y a un enjeu de légitimisation d'un enseignement spécifique. Donc, il n'est pas utile de préciser que des professeurs d'une autre discipline peuvent exercer dans cette discipline, puisqu'on ne le fait pas dans les autres disciplines. Donc, nous, on est sur ce même problème-là. Et puis, en fait, vu que vous êtes sur un nouveau décret, va se poser la question, et j'ai participé au seul groupe de travail pour l'instant qui a eu sur la transposition pour les nouveaux décrets dans l'enseignement agricole, la question de la parité avec l'IN. Il y a une loi de la parité au niveau du ministère de l'Agriculture avec l'IN, et vu ce qui est passé au niveau de l'éducation nationale, on peut avoir beaucoup à perdre. Ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on arrive à faire rentrer quelque chose, nous, ça peut faire retour à l'employeur pour vous. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Voilà. Donc pour conclure, en fait, je formule un vœu, c'est que de cas d'exception, parce que ça fait plusieurs fois moi, que je me retrouve dans le cas d'expliquer un peu la bête curieuse qui est l'enseignement agricole. Donc de cas d'exception, j'aimerais bien qu'on devienne de simples pionniers, pionnières. Voilà. Et un petit rappel de référence bibliographique de l'enseignement agricole autour des notions. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci à vous pour votre intervention très intéressante, notamment au niveau des lycées agricoles, de la chance de travailler, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vraiment une autre vision du métier sur le groupe presse. Je suis assez inquiet pour la première intervention à propos des principaux qui montrent quand même une certaine attente de notre part, mais qu'en est-il de la connaissance leur connaissance de notre métier, et ce qu'ils savent un peu ce que nous, on pouvait attendre de leur part. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de l'EMIN, alors je ne dirais pas que c'est un peu le maillon faible, mais les intervenants à la première journée ont parlé de volonté institutionnelle de faire apparaître l'EMIN, que nous, on aimerait bien s'en emparer aussi, par souci de légitimité, ou entre autres, mais est-ce que eux ne pourraient pas lancer un petit peu ça? Est-ce que ça ne manque pas un peu de volonté de la part des principaux de faire intervenir ça? Et si nos politiques documentaires peu présente au niveau de l'établissement, est-ce que c'est pas aussi le fait que les principaux n'interviennent pas et n'impulsent pas ça? C'est-à-dire qu'ils ont des attentes de notre part, mais est-ce qu'on pourrait pas être un peu vu comme des meneurs de projet plutôt que simplement des exécutants de leurs attentes à eux, notamment au niveau des TIS?
Alors, pour avoir consulté les chefs d'établissement formés et d'autres non formés, il est vrai qu'il y a une méconnaissance avérée des métiers, hein, ça c'est certain. Ce qui ressort de cette dimension-là, c'est, un peu du dialogue de sourds, des difficultés récurrentes à des chefs d'établissement souligner qu'il avait travaillé de manière avérée avec son professeur documentaliste sur la mise en place du projet de politique documentaire la première année. Et le quotidien, les projets récurrents, la difficulté de trouver du temps, l'amener à faire confiance à son professeur documentaliste et à le laisser de côté. Donc mon intervention, ça a été assez intéressante parce que pour celui-ci et puis pour d'autres, ça a fait une petite piqûre à ce moment-là, en disant, mais c'est vrai qu'on ne sollicite pas tant ça. J'ai eu l'impression que ces chefs d'établissement ont une écoute, on attire leur attention dans la formation sur la question des délégations. Pour avoir côtoyé d'autres chefs d'établissement, j'ai l'impression que les questions des professeurs documentalistes est encore invisible.
Alors, toujours, Madame Mansela, moi, il y a une remarque qui m'a été donnée. Vous avez dit à un moment qu'un chef d'établissement avait expliqué les difficultés du professeur documentaliste en fait que cette personne est en fin de carrière. Pour moi, c'est une caractérisation des difficultés. Est-ce que vous avez essayé de lui faire caractériser la nature réelle de cette
chose. Alors, ce chef d'établissement exerce dans l'Académie de Paris et souligne la spécificité des enseignants auxquels il a affaire. Il a pu établir une comparaison et il a employé une formule qui était intéressante, enfin je trouvais un peu qui faisait sens, parce qu'il avait accueilli juste l'année d'avant une stagiaire, professeur documentaliste stagiaire. Et cette professeur documentaliste stagiaire, il l'avait appelée professeur documentaliste nouvelle formule. Il avait. Alors je m'attitue ces termes, hein. Je n'ai pas relevé, enfin je n'ai pas relevé, j'ai simplement. Mon objectif, ce n'était pas de relever et de tenter quoi que ce soit. Et cette jeune enseignante l'avait interpellée dans son établissement et avait interpellé les autres enseignants sur la mise en place de pratiques un peu plus innovantes, de MOOC notamment. Hein. C'était la seule fois où un des chefs d'établissement signalait les MOOC et s'était retourné vers les autres enseignants. Et donc cette dynamique un peu plus novatrice l'avait interpellée. C'était celui aussi qui avait des. Je ne sais plus si j'ai cité cet exemple-là de tableau interactif avec stylet. Il avait dans le bureau à côté l'accès au stylet. Il disait que le stylet n'était jamais utilisé. Donc, loin de moi d'évoquer le fait qu'en fin de carrière est forcément une difficulté, pour être en début de carrière et avoir aussi une difficulté en lien avec les compétences. Donc, je n'ai pas voulu approfondir. Pour moi, ce n'est pas. Je reconnais la limite de mon étude. Hein. Je ne suis pas allée rencontrer les professeurs documentalistes de l'établissement. Donc, je n'ai pas confronté avec la perception. Donc, c'était. Il me semble qu'il y a quelques pistes qui sont intéressantes à éclairer, à approfondir, mais je mesure toute la limite de l'étude.